rencontre sur Radio Orient.
L'invitée de rencontre, Leïla Chaïd, ex-ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne, précédemment déléguée générale de la Palestine en France et à l'UNESCO. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la marraine de la 14e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, une sélection de films mêlant fiction et documentaire, des succès populaires, des avant-premières, mais aussi des découvertes d'inédits. Vous avez toujours, Leïla Chaïd, été une amoureuse de la culture. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela représente pour vous d'être la marraine de ce festival?
Écoutez, beaucoup de choses, parce que premièrement, j'adore ce panorama que je connais depuis plusieurs années, puisqu'ils m'ont déjà invité dans d'autres éditions à participer à leurs activités. Ce qui m'intéresse dans ce festival, qui s'appelle le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, c'est que c'est beaucoup plus qu'un festival. C'est un lieu de rencontre extraordinaire entre réalisateurs, publics, producteurs, scénaristes, presse, qui s'intéresse au cinéma et qui couvre bien le cinéma. Vous savez, peut-être que vous le réalisez pas et les auditeurs de Radio Orient ne le savent pas, mais la France, pour moi, est le premier pays qui s'intéresse au cinéma venant du monde arabe. Malheureusement, on trouve pas le même intérêt ni en Angleterre, ni en Italie, ni en Espagne, et sûrement pas aux États-Unis. Et donc, pour les réalisateurs, pour les acteurs, pour les scénaristes, c'est très important de passer par la France. Quelquefois, ils passent par la France pour partir après à Berlin ou à Toronto au festival important du film au Canada. Mais Paris est un passage très important. Et le public est un passage très important parce que c'est le public qui fait, comme vous avez dit, c'est le public qui fait le succès d'un film. Et donc, cette manifestation que je connais depuis quelques années m'a demandé cette année d'être marraine, ce qui m'a vraiment beaucoup honorée parce que je ne suis pas ni une spécialiste réellement du cinéma, mais je m'intéresse au cinéma, ni je suis tunisienne. Et le focus cette année, c'est la Tunisie, qui pour moi est un pays exceptionnel de par la force de la société civile, de sa manière de s'être levé avec beaucoup de dignité en 2011, d'avoir en fait changé le régime tunisien avec très peu de morts et de blessés, et d'avoir fait une vraie réflexion pour la mise en place d'un parlement avec une constituante qui a préparé pendant plusieurs mois le nouveau parlement. Et je pense que la place des femmes dans cette société est particulièrement importante. Elle est porteuse pour moi, femme arabe, de beaucoup d'espoir. Parce que sans la participation des femmes dans tout mouvement démocratique, que ce soit en Occident ou en Orient, il n'y a pas de changement. Et donc, pour toutes ces raisons, je suis très heureuse d'être la marraine de ce festival.
On le sait, il y a bien entendu une dimension politique à travers le cinéma. C'est aussi un moyen de se réapproprier son histoire.
Oui, il y a bien sûr dans le cinéma toujours un rapport très important à l'histoire. Vous savez que tout le monde n'a pas nécessairement eu la possibilité de connaître l'histoire complexe de tous ces pays, à commencer par la Palestine, qui est complexe dans son histoire. Mais tous nos pays sont complexes, parce que tous nos pays sont un peu la résultante des mouvements colonialistes qui ont colonisé nos pays, puis après qui les ont divisés au Maghreb et au Mashrek, avec souvent des frontières totalement artificielles. Et vous réalisez que dans la plupart de ces films, même ceux qui partent à partir d'un scénario qui parle du présent, il y a toujours un retour à la mémoire pour pouvoir justement expliquer la complexité des situations objectives de chaque pays. Les pays n'ont pas du tout la même situation, ils sont très différents selon qu'on parle de la Libye ou de la Syrie ou du Maroc par exemple. Mais il faut à un moment donné revenir à l'histoire pour comprendre pourquoi la situation actuelle est comme elle est. Et puis, il y a aussi des histoires occultées. Ça veut dire, il y a des... Par exemple, si vous regardez aujourd'hui la situation en Irak, dites-moi, est-ce que vous voyez beaucoup de choses qui parlent du peuple irakien? On passe notre temps à nous montrer dans les télévisions, mais aussi au cinéma, plutôt l'armée américaine, plutôt Daesh qui fait sauter les gens. Et le public normal français pourrait croire que l'Irak, ce n'est que des gens qui sont ou bien tués ou bien qui tuent. Or, l'Irak était un des pays les plus riches en culture. Il est toujours, mais il est dans une situation catastrophique aujourd'hui.
C'est intéressant ce que vous nous dites. Hein. La vérité peut être transmise à travers le 7e art davantage.
Tout à fait. Vous savez, la Palestine, à commencer par la Palestine. Nous avons inauguré il y a 2 jours le panorama avec le film de Hani Zoabi, de Sameh Zoabi. Sameh Zoabi est un Palestinien d'Israël. Déjà, beaucoup de gens vont découvrir qu'il y a en Israël presque 2 millions de citoyens israéliens, mais ils sont palestiniens, que nous, on appelle les Palestiniens israéliens. Et Sameh Zoabi a écrit un scénario plein d'humour qui joue sur les contradictions de la société israélienne et qui raconte comment un Palestinien peut se retrouver dans une situation un peu à la dantesque, avec beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour. Et ça, c'est une autre manière de parler de la Palestine, qui aussi, quelquefois, résumée uniquement aux combattants ou aux enfants qui jettent des pierres aux manifestations à Gaza. Et là, vous voyez beaucoup d'humour. Ça va surprendre les gens comment, même dans la tragédie, même dans la souffrance, on peut avoir beaucoup d'humour. Peut-être que, quelquefois, l'humour raconte la tragédie beaucoup mieux que la tristesse ou le désespoir qu'on utilise souvent dans les reportages télévisés, disons.
Le cinéma palestinien, il devrait, selon vous, davantage traverser les frontières ?
Oui, il a commencé beaucoup. Comme je dis, en tout cas en France, vous avez énormément de salles, vous avez beaucoup de distributeurs très courageux. Je pense à un film qui va être projeté dans le festival, mais qui est même sorti dans les salles, le film syrien qui s'appelle Still Recording, c'est-à-dire qu'on continue à filmer. Je l'ai déjà vu à l'avant-première au MK2. C'est un film fait par 2 caméramans syriens qui se sont retrouvés, comme la population de la Ghouta orientale près de Damas, assiégée pendant plusieurs années. Et ils ont pris le parti de tout filmer, leur vie quotidienne, d'aller sur le front, de se faire bombarder comme la population était bombardée. Et c'est un magnifique film qui n'est pas facile. Et les distributeurs l'ont choisi et le sortent dans les cinémas commerciaux en France, pas seulement à Paris. Je trouve que c'est très courageux. C'est un acte, je dirais presque volontaire, de montrer que le cinéma peut montrer des choses que la presse, les médias, la télévision n'a pas le temps de montrer ou ne sait pas montrer, parce que c'est l'œuvre d'artiste.
Vous avez notamment été ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne. Vous n'avez plus de fonction politique officielle aujourd'hui, mais vous portez bien sûr un regard attentif. Et vous portez quel regard sur ce qui se passe en ce moment à Gaza, Leila Shahid ?
Écoutez, là, vraiment, c'est une tragédie qui se répète tout le temps. Ça fait maintenant plus de 87, plus de 15, 16 ans que Gaza est complètement assiégée. Elle est occupée depuis 52 ans, mais elle est totalement assiégée. Ça veut dire, par air, par mer et par terre, on ne peut pas ni entrer ni sortir. Vous imaginez, il y a 2 millions de personnes. Ça veut dire la densité la plus importante au monde par kilomètre carré. Vous avez une situation de chômage qui, pour les jeunes, est de plus de 60%, plus de 50% pour les adultes. Vous avez une incapacité réellement de pouvoir avoir de l'eau potable parce que l'eau de la mer s'est infiltrée dans les nappes phréatiques. Et la Banque mondiale dit que l'année prochaine, en 2020, il n'y aura plus d'eau potable pour que les gens puissent boire. Vous avez des rationnements d'électricité avec uniquement 12 heures par jour d'électricité. Et vous avez une impossibilité de circulation. Les gens ne peuvent pas sortir parce que vous avez Israël tout au long de trois frontières. Et vous avez de l'autre côté au sud le Sinaï qui est fermé aussi par les autorités égyptiennes. Donc vous avez une prison à ciel ouvert. Et la jeunesse palestinienne sent très bien qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Parce que dans le contexte qu'on a dit, avec des guerres au Yémen, un pays détruit comme la Syrie, un pays qui essaie de se recomposer comme l'Irak, le Yémen qu'on est en train de détruire tout quotidiennement aujourd'hui, le monde arabe a d'autres soucis, autres que la Palestine. Et donc les Palestiniens, surtout ceux de Gaza, sont d'un courage et d'une grande inventivité. Et donc ils ont décidé, il y a plus d'un an, qu'il fallait qu'ils commémorent tous les vendredis les dates importantes de l'histoire de la Palestine. Le 30 mars, qui est la journée de la terre, le 15 mai, qui est la déclaration de l'État d'Israël et la disparition de la Palestine, ce que nous appelons la Nakba. Et donc, ces jeunes, avec beaucoup de courage, parce que le 3/4 du temps, sans aucune violence, nous avons plus de 258 morts depuis un peu plus d'un an. à Gaza, il y a un soldat qui a été tué, un seul soldat israélien tué. Et les Israéliens tirent avec des francs-tireurs qui visent les jeunes, les infirmières, les secouristes, les journalistes, vraiment volontairement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'Israéliens qui protestent contre ce qu'ils appellent des assassinats ciblés. Mais malheureusement, ce qui est absolument terrible pour les Palestiniens, c'est l'indifférence de la communauté internationale. Je ne dirais pas indifférence, je dirais l'incapacité de la communauté internationale, des gouvernements, de compter sur le plan politique, de savoir. Vous parlez de l'Union européenne où j'ai travaillé 10 ans. Je n'ai jamais douté du fait que, sur le plan de la conviction, les Européens sont très critiques à l'égard des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité pratiqués par les autorités militaires israéliennes. Mais au-delà de la résolution qu'ils peuvent voter au Conseil européen, après, il n'y a pas de mise en œuvre, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de boycott, il n'y a pas de désinvestissement, il n'y a pas de pression réelle. Or, il n'y a pas une puissance occupante au monde qui va décider de quitter le territoire qu'elle occupe parce qu'on le lui a demandé. Il faut des pressions économiques, politiques, culturelles, financières. Comment se fait-il que lorsque Poutine annexe la Crimée, toute l'Union européenne se lève et prend des sanctions contre Poutine? Lorsque les Israéliens annexent et Jérusalem, imaginez, Jérusalem, la ville capitale de la spiritualité dans le monde, annexe le Golan, personne ne fait rien. Je veux dire, c'est scandaleux de voir combien il y a deux poids, deux mesures. Je pense que ça, c'est à l'origine de beaucoup, beaucoup de colère dans le monde. De gens qui ne sont pas palestiniens, mais qui sont quand même très choqués du fait que l'impunité d'Israël est au-dessus de tout. Et aujourd'hui, avec Trump à la tête de l'administration américaine, c'est d'autant plus grave parce que lui couvre vraiment le gouvernement israélien. Et les élections qui sont dans quelques jours, le 9 avril, malheureusement, vont montrer que la société israélienne va de plus en plus vers l'extrémisme, vers la droite et même vers des partis officiellement racistes qui appellent à l'assassinat des Palestiniens, à leur déportation, à leur expulsion de territoires palestiniens et même d'Israël.
Donald Trump qui a tout récemment choisi de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Vous parleriez d'un affront?
Oui, je dirais que c'est même plus grave qu'un affront. Je dirais que c'est une insulte à l'égard de la communauté internationale parce que le Golan est considéré comme occupé sur la base d'une loi qui a été promulguée après les deux guerres mondiales et qui dit que toute conquête d'un territoire par la force militaire est illégitime, par n'importe quelle puissance militaire. Et donc, lorsque Trump, président quand même d'une grande nation américaine, d'un grand État qui est une des grandes puissances du monde, vient et légitime uniquement par le fait que ça fait 52 ans que ça dure et que c'est important pour la sécurité d'Israël, que ce territoire, il le reconnaît comme israélien et pas syrien, à l'encontre de tous les autres pays du monde. Tous les pays du monde considèrent que c'est un territoire occupé. Et les États-Unis le considéraient jusqu'à l'arrivée de Trump. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, n'importe quel général peut aller, en Corée, en Chine, en Afrique, conquérir un territoire et dire, puisque M. Trump, lui, peut reconnaître à Israël le droit de revendiquer un territoire qu'elle occupe par la force militaire, pourquoi pas moi? Et donc, je trouve que c'est très grave, pas seulement pour les Syriens, pour les Arabes, et pour les gens concernés, mais avant tout pour le respect du droit international et pour la crédibilité du droit international. Il est en train de saper cette crédibilité, pas seulement d'ailleurs avec ce qu'il a dit sur le Golan, mais il est en train de revendre des armes nucléaires à certains États alliés, il est en train de se retirer d'un accord sur le nucléaire avec l'Iran. Il menace l'Iran d'une nouvelle guerre qu'il est capable de mener si ça lui permet de rester au pouvoir. C'est très dangereux et je trouve que la réponse européenne n'est pas assez ferme. Quant à la réponse arabe, elle est, je dirais, inexistante parce que le monde arabe aujourd'hui est tellement fragmenté qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de Ligue arabe, qu'il n'y a plus de position arabe commune. Il n'y en a pas réellement.
Comment elle devrait agir, l'Union européenne? Quelle réponse vous attendriez?
Moi, je trouve que l'Union européenne devrait avant tout essayer de trouver un moyen d'avoir une position unie. Ce qui a beaucoup fragilisé l'Union européenne, c'est qu'elle s'est beaucoup occupée de son union monétaire, son union sur les questions du commerce international, ce qui est important. Mais elle a sous-estimé combien, sans union politique, les décisions seront très difficiles. Avec l'élargissement aux pays de l'ancienne Europe de l'Est, ils ont eu malheureusement beaucoup d'États qui sont beaucoup plus proches de la position américaine en politique internationale que de l'Europe, historique. Et cette rupture vraiment d'un mur qui n'existe pas officiellement puisque le mur de Berlin est tombé, mais il est encore là dans les têtes. Et vous avez des pays comme la Hongrie, comme la Roumanie, comme la Tchéquie, qui sont des pays qui sont beaucoup plus alignés sur la position américaine. Je pense qu'ils n'ont pas consacré assez de temps à faire une union politique. Et tant qu'il n'y aura pas cette union politique, tant qu'ils ne seront pas, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils devraient rester dans l'OTAN ? Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, Trump, littéralement, il nargue les Européens.
Pour revenir sur la situation en Palestine, à Gaza, à la frontière israélo-palestinienne, ces marches du retour qui ont démarré le 30 mars 2018, cela fait maintenant plus d'un an, elles ont mis en lumière la vitalité de la population.
Tout à fait. Parce que, vous savez, depuis, je vous dis, 2007, c'était les élections, 2006, c'était les élections en Palestine et le Hamas a eu une majorité qu'on ne lui a pas reconnue, ce qui, à mon avis, était une erreur parce qu'il faut toujours respecter la règle du choix démocratique des peuples. Et donc, un an après, elle a pris le pouvoir par la force à Gaza et elle s'est complètement coupée de la Cisjordanie parce que, comme vous le savez, il y a une totale rupture entre les mouvements majeurs de l'OLP, en particulier le Fatah et le Hamas. Mais sur le plan géographique, c'est catastrophique parce que ce que ça a fait, qui a beaucoup arrangé les Israéliens, c'est que ça a séparé le territoire de Gaza de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Or, le territoire de Gaza, c'est le territoire le plus pauvre. Et Israël serait très contente d'atomiser les territoires palestiniens. Elle a annexé Jérusalem, elle a donné au Hamas Gaza et elle va donner des petits bantoustans en Cisjordanie à l'autorité palestinienne. Ça, c'est la destruction du projet d'un État palestinien, pratiquement. Et je trouve que il y a eu des moments où la jeunesse était très désespérée. Au début, disons qu'elle était un peu, elle était dans l'attente de savoir comment le Hamas va, quelle politique il aura à l'égard de la liberté d'expression, de la liberté de la femme, du choix des femmes d'être voilées ou pas voilées. Tout ce qui a été assuré pendant toute la période avant la prise de pouvoir du Hamas. Et il y a eu un moment où on avait l'impression que la jeunesse était un peu assagie, un peu désespérée. On pensait que la seule chose qui les intéressait, c'était de partir par n'importe quel moyen. Certains, d'ailleurs, allaient par le biais de l'Égypte, prenaient les bateaux par la mer comme tous les migrants. Mais ce qu'on a vu depuis un an est quelque chose d'extraordinaire et c'est une initiative totalement de la jeunesse. C'est absolument pas vrai que c'est Hamas qui a lancé le mot d'ordre de ces manifestations. C'est les jeunes qui se sont regroupés en se réclamant d'ailleurs d'un mouvement anti-violent, d'un mouvement pacifiste qui dit par des manifestations de masse, comme l'a fait Martin Luther King, comme l'a fait Mandela, nous voulons, comme l'a fait Gandhi, nous voulons, nous aussi, parce qu'on est quand même 2 millions de citoyens, donc au moins 100 000 peuvent venir manifester pacifiquement toutes les semaines. Et c'est ce qu'ils font. Et il y a un côté extraordinaire dans ces manifestations du Grand Retour, c'est la gaieté. Ça veut dire que c'est devenu comme, pourtant, Dieu seul sait, puisqu'on a plus de 258 morts, et on a 6 000 blessés avec beaucoup d'estropiés de gens, parce que les Israéliens visent exprès le genou pour qu'on ne puisse pas réparer. Vous savez, il y a un médecin français qui va les opérer et il dit que nous n'avons jamais vu ce genre de blessure. Ça veut dire que ce sont des balles qui explosent à l'intérieur de la blessure et les os sont tellement fracturés qu'on ne peut pas les remettre. Et donc, on est obligé de couper parce que sinon, ça fait des gangrènes. Donc, vous avez maintenant une génération, plusieurs dizaines d'estropiés, de jeunes gens qui ont un pied artificiel parce qu'on les vise. Et pourtant, avec tout ça, lorsque vous essayez de voir comment se passent ces manifestations le vendredi, c'est aussi comme une fiesta. Ils mettent des tentes, ils font de la musique, ils font de l'art, ils font des petites pièces de théâtre. Et lorsque l'un d'entre eux est atteint, ils le portent et ils l'enterrent le jour même. C'est triste parce que c'est quand même, il y a des gens qui meurent. Hein. Il ne faut pas oublier que... Mais ça montre la confiance qu'ils ont en eux-mêmes.
Ce panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, il s'adresse bien entendu à cette jeunesse et il la met en lumière aussi.
Oui, tout à fait. Alors, vous avez des films qui parlent de la jeunesse palestinienne en Palestine. Vous avez des films comme celui de Fleifel qui parle des Palestiniens plutôt en exil dans les camps de réfugiés au Liban. Et moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas comprendre le monde arabe si on regarde des cinémas totalement séparés les uns des autres. Là, nous avons un focus sur la Tunisie, qui est très intéressant, avec d'ailleurs un brillant militant, ancien ministre, responsable de la mise en place de la constituante en Tunisie, Kamel Jendoubi, qui va venir clôturer le 20 dans un débat avec un film sur ce qui s'est passé en Tunisie. Vous avez le film de M. Namrabit, qui est un professeur à Paris 8, à Saint-Denis de cinéma, qui a fait un très bon livre qui vient de sortir, et elle va animer tout un débat sur les femmes réalisatrices et la transgression, parce qu'en Tunisie, nous avons dans ce festival tout seul 6 réalisatrices tunisiennes, dont une qui habite au Canada, qui est Hajar Shrif, qui a fait un magnifique film sur une personnalité qui malheureusement est décédée quelques mois après la fin du film, qui s'appelle Béatrice Slama. Béatrice est une militante communiste tunisienne qui a milité pour l'indépendance, qui vient d'un milieu juif tunisien, qui est après venue en France, a milité aussi avec le mouvement mai 68 et qui est devenue une féministe très appréciée, très connue, amie de Hélène Cixous, amie de notre amie qui dirige le Théâtre du Soleil, Ariane Mouchkine. Et donc, ce film est magnifique parce qu'il rappelle la dimension juive aussi de la Tunisie, pas seulement la dimension musulmane, la chrétienne, et plutôt une dimension européenne qui est présente en Tunisie. Et donc, je trouve que c'est très important que ces films soient aussi dans un contexte plus large que la frontière nationale. Parce que, est-ce qu'on peut vraiment complètement séparer ce qui se passe en Tunisie de ce qui se passe en Libye, de ce qui se passe au Maroc, ou ce qui se passe au Liban par rapport à ce qui se passe en Syrie et en Palestine? Je trouve que c'est une très bonne chose que les programmateurs du festival ont, tout en faisant un focus sur la Tunisie, parce que chaque année, ils font un focus, et que le choix de la Tunisie est très important parce qu'il est porteur d'espoir d'avenir, de ne pas avoir éliminé les cinémas des autres pays avec des films très récents, pour certains qu'on n'a jamais vus auparavant.
Que l'on pourra voir
à Saint-Denis, à Saint-Ouen, à Aubervilliers, à l'Entrepôt à Paris, au très beau cinéma Le Luxor et à l'Institut du Monde Arabe. Il faut regarder le programme, il a 70 films.
Vaste programme. Merci beaucoup, Leila Shahid, ex-ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne.
Avant tout, une grande militante de la culture arabe, et je suis très heureuse que Radio Orient répercute ces activités de culture du monde arabe en France qui nous accueille très généreusement.
Merci à vous pour cet entretien et vous êtes bien entendu la marraine de cette 14e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet entretien et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.